Radio Scoopy. Radioscopie, Jacques Chancel,
Léo Ferré.
Léo la hargne, Léo la colère, Léo la tendresse, des épithètes qui voudraient coller à votre personnage. Pour moi, et pour beaucoup d'autres, vous êtes Léo de ma jeunesse. J'allais vous écouter il y a une petite quinzaine d'années, dans ces chambres à chansons qui sont aujourd'hui devenues des clubs privés. Vous étiez déjà à la révolte, et on est toujours révolté à 20 ans, j'avais cet âge. Éluard disait des peintres qu'ils donnent à voir, Louis Aragon affirme, Léo Ferré me donne à rêver. Vous êtes un poète qui écrit directement ses poèmes suivant les lois d'un genre poétique, vous avez 60 ans, vous êtes plus que jamais anarchiste et toujours en bonne santé. Léo Ferré, vous pouvez être agaçant. Êtes-vous agacé de me l'entendre dire?
Non, mais si vous permettez, je vais vous dire une chose. C'est que moi, je suis né en 1916, j'ai donc 52 ans, j'ai pas 60 ans.
Oh, pardon.
Non, mais remarquez que vous savez,
pour moi, mais comme vous avez rectifié, tout est parfait.
Oui. Quand on me demande l'âge que j'ai dit 10 000 ans ou 3 ans. Au fond, je n'ai pas mon âge. Voilà, je me refuse à avoir.
Est-ce que ça vous agace de dire que vous êtes parfois agaçant?
Mais je ne suis pas agaçant, vous savez. C'est ça le problème. C'est que je ne suis pas agaçant. Expliquez-moi je voudrais que vous me disiez comment je suis agaçant.
C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, vous allez tellement loin dans vos chansons que vous pouvez heurter certaines bonnes consciences. Enfin, je les appelle comme ça, moi.
Oui, les bonnes consciences décorées, ça, je m'en fous, vous comprenez. Moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je dis ce que je pense, et plutôt, vous l'avez dit tout à l'heure, je chante ce que je pense. Et je fais plaisir à des tas de gens. Maintenant, si les gens à qui je ne fais pas plaisir, mais tant pis, vous comprenez, ce sont des gens qui ne sont pas dans mon cycle, voilà.
Léo Ferré, vous avez dit la société est bien croulante, l'argent pourrit tout et la bourgeoisie est haïssable.
La bourgeoisie, c'est plus grave que ça, la bourgeoisie tue, enfin, d'autres choses. La bourgeoisie haïssable, il n'y a pas que la bourgeoisie qui est haïssable. Les bourgeois, et singulièrement en France, tuent. C'est la raison pour laquelle... Et s'il y a un jour, si nous devons être un jour un pays socialiste, nous serons le dernier. Nous ne verrons pas chez nous le socialisme.
Cet argent que vous condamnez, Léo Ferré, vous lui faites tout de même certaines grâces.
Mais non, je ne fais pas de grâce. Ça, c'est une question. C'est comme l'autre jour, on était avec Brassens et Brel. On discutait et on demandait à Brassens, enfin, vous avez de l'argent, vous gagnez de l'argent. Et Brassens a dit, eh bien, évidemment, de toute façon, nous n'exploitons personne, n'est-ce pas? L'argent que nous gagnons, c'est toujours, la plupart du temps, un cadeau qu'on nous fait. C'est-à-dire que les gens, vous savez que nous sommes des gens publics. Bon, les gens rentrent dans un théâtre, ils payent, ils donnent de l'argent pour venir nous voir d'abord, avant de nous entendre chanter. Une des raisons pour lesquelles on nous dit que nous sommes des gens publics. Vous savez, moi, quand il m'arrive de rencontrer dans la rue des filles dites publiques, eh bien, elles ne me font jamais l'article quand elles m'ont reconnu. Alors, j'ai longtemps cherché la raison, et j'ai compris, c'est que je fais un peu le même métier qu'elles, n'est-ce pas? Et Brel a été d'accord avec moi, il m'a dit, oui, et souvent, ce sont des artistes, et nous sommes des putains. Parce qu'au fond, je crois qu'il y a un pas à passer pour les femmes. C'est une chose grave, moi ça ne me regarde pas. Les femmes comme ça vendent leur corps, mais nous, qu'est-ce que nous vendons? Nous vendons une partie de notre corps, c'est-à-dire d'abord la voix, n'est-ce pas? Et puis nous nous montrons. Vous savez qu'il y a des gens qui sont peut-être pas très bien équilibrés ou que nous penserions plus équilibrés qu'ils ne le sont, qui viennent nous voir après le tour de chant. Pour moi, le rideau baissé, je suis un homme comme les autres. Eh bien, pour des gens, je ne suis pas un homme comme les autres. Ils viennent me toucher. Je ne vais pas vous donner des détails très très précis parce que ça n'est pas possible de raconter ça, mais il y a des choses très... Et ça me gêne beaucoup et de toute façon, donc, nous sommes un peu des prostituées. Hein.
Tout à l'heure, vous disiez, je vends ma voix, mais vous quand même vous donnez votre cœur.
Oui, mais qu'est-ce que... Vous comprenez je suis pas de salaire, je suis pas ce qu'on appelle des émoluments ou bien des honoraires. C'est curieux d'ailleurs cette façon d'avoir plusieurs façons d'appeler le fric, n'est-ce pas? Non. Nous vendons quelque chose. Vous savez, moi, si j'avais pas de voix, je n'écrirais pas. J'écrirais pas ce que j'écris parce que personne ne me publierait, vous comprenez? Je ne pourrais pas vivre Parce que, par exemple, il y a une fille qui a toujours chanté mes chansons, c'est Catherine Sauvage, une femme admirable, n'est-ce pas? Enfin, si moi j'avais pas eu de voix, j'aurais pas pu lui écrire des chansons parce que ça ne m'aurait pas fait vivre qu'elle seule chante mes chansons. Vous comprenez? D'autres interprètes n'en parleront pas, ils refusaient toujours tout, n'est-ce pas? Et alors, heureusement que j'ai de la voix et je dis toujours que je suis un chanteur avant tout. Voilà.
Léo Ferré, vous vivez dans une merveilleuse propriété de Saint-Clair, dans le Lot. Ça vous va bien d'avoir une si belle maison?
Et si vous savez, monsieur, moi je ne vis plus dans cette maison. Mais si vous venez là-bas, vous verrez que ça n'est pas somptueux. Les choses somptueuses, pour moi, se passent dans le cœur, n'est-ce pas? Maintenant, les maisons, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une maison, oui. Moi, quand j'ai eu de l'argent, j'ai pu acheter une maison parce que... on dit la propriété, ça, c'est un mot qui voudrait changer parce que avoir de l'argent, ça nous donne la possibilité d'acheter quelque chose pour être seul. Pour moi, c'est ça. Comprenez, je loue en quelque sorte une chose pour toute ma vie, car il est évident, j'ai 100 ou 200 chaînes, mais l'autre jour, je passais, je regardais mes chaînes, j'ai dit mais que ça veut dire ça? C'est le chêne. J'aime bien parler aux arbres, n'est-ce pas? Parce que les arbres vivent, n'est-ce pas? Quand on les scie, ils crient, on les entend pas parce que c'est d'une autre dimension. Et je parlais au chêne en disant, dis donc, à qui tu es? Il m'a répondu, ben, je suis à moi, mon pote. Vous comprenez?
Bernard Clavel me disait hier que le chêne et l'arbre en général, c'était le symbole de l'amitié.
Un arbre vit, un arbre c'est un personnage. Et souvent, quand je suis malheureux, je veux... vous savez, quand on est malheureux, je ne sais pas si vous êtes arrivé, on voudrait être chose. On voudrait être... J'ai voulu être... Quand j'étais petit, j'allais au collège, et en descendant vers le collège, ma mère m'accompagnait à la gare, et je voyais des chevaux. Et combien de fois je disais, allez, prends ma place, et je prends la tienne.
Est-ce que vous vous considérez comme un anarchiste, Léo Ferré?
Oui. Vous savez, depuis le mois de mai, ça a changé, parce que les gens, avant, ça les faisait rigoler. À la fin du siècle dernier, les gens ne rigolaient pas du tout, parce que les anarchistes, c'était des gens qui étaient des gens seuls, d'abord, et puis qui lançaient des bombes. Bon, bref. Et après, c'est devenu de la parlotte, c'est pas, et surtout une très grande solitude. L'anarchie, c'est une chose grave. Je pense que l'anarchiste, le vrai anarchiste, est seul. Il existe une fédération, anarchistes sont mes amis, mais je ne peux pas supporter qu'il y ait une fédération. Alors, si c'est pas ça, ça veut dire qu'il y a une carte. Il faut aussi écrire.
Vous n'aimez pas les partis, les
gens. J'aime pas les partis.
Vous n'êtes jamais dans la ligne d'un parti. Ça me rappelle un souvenir. Vous m'aviez dit une fois, je ne suis jamais dans la ligne d'un parti. Je suis toujours dans la courbe.
Oui. Mais non, c'est pas la courbe, c'est autre chose. Moi, j'ai été, pour être sincère, j'ai appartenu au Parti communiste français 5 minutes. Et si vous voulez, je vais vous expliquer pourquoi, c'est vite fait. Oui. C'est un copain qui m'avait convaincu, puis moi j'étais... Oh, qu'est-ce que vous voulez, j'étais faible, et puis j'étais un peu con, n'est-ce pas, politiquement. Et je le suis encore, d'ailleurs, pourquoi le cacher. Et puis il m'avait dit, viens, il y a 20 ans, 22 ans de ça, tu viens dans la cellule, c'est une cellule du 4e arrondissement. Je suis allé dans cette cellule, et c'était sympathique, il y avait une table avec des bancs, et ce copain s'était assis à côté de moi, puis moi j'étais assis à côté de lui, et on devait me donner la carte avec un timbre de l'année sur la carte. Et alors, il y avait un gentil garçon qui était au bout de table, qui était on m'a dit le secrétaire de cellule, et qui m'a dit, il parlait, enfin, ouais. Et mon copain a vraiment levé le doigt, c'est une gêne, n'est-ce pas? Il a levé le doigt, et alors le monsieur qui était au bout de table, qui était donc le secrétaire, a baissé le bras en disant, tout à l'heure, camarade. Alors je me suis levé, j'ai dit, moi, c'est pas tout à l'heure, c'est tout de suite.
Ça durait 5 minutes.
Ça durait 5 minutes. Cela dit, quand je raconte ça, il faut pas croire que je sois, comment dirais-je...
Très opposé.
Non, je suis pas un type de droite. Ouais.
Hein? Entre la droite et la gauche, vous avez choisi une fois.
Non, l'extrême gauche, ça rejoint l'extrême droite, c'est ça qui est embêtant.
Bon, vous êtes anarchiste, est-ce qu'on peut être à la fois anarchiste et sentimental?
Je crois que le vrai anarchiste, c'est le type, c'est l'amour.
Léo Ferré, la musique ne paie pas toujours son homme. Vous avez été glorieux, tout de suite, mais le succès n'est venu que très tard. Est-ce que vous en avez souffert?
Je souffre pour la musique. Pour moi, la musique, c'est pas la chanson. Moi, je suis musicien, j'ai des tas de choses dans les tiroirs. Je pense que Vous savez, la musique est singulièrement dans notre pays et encore plus singulièrement à la radio française. C'est une histoire de petits copains, de comités. Il y a un comité de la musique d'ailleurs où des gens sont à l'institut, n'est-ce pas, etc. Alors, il y a des comités qui lisent la musique qu'on leur envoie ou qui ne la lisent pas. De toute façon, j'avais écrit une œuvre. Ça vous gêne pas ce que je vous dis? Ça,
non, mais
c'est la vérité, vous savez.
Non, mais je vous écoute. Les petits copains, c'est partout, de toute manière. Non
mais les petits copains, c'est partout. Oui, mais c'est
surtout d'ailleurs, dans la chanson, d'ailleurs.
Je crois pas. Non.
Vous n'avez jamais essayé de pousser des petits copains dans la chanson?
Non, mais ne me déviez pas. Je voulais vous dire quelque chose d'important.
Vous me parliez de la musique.
Oui, un jour, j'ai mis en musique la chanson du Mal-aimé de Guillaume Apollinaire. J'ai mis un an à écrire ça. Et comme je ne savais pas comment me faire jouer, parce qu'il y avait un grand orchestre symphonique, je connaissais M. Gilson, qui était un poète, et qui était aussi un fonctionnaire. Et je suis allé le voir, il était directeur des programmes, c'était un monsieur très affable, très gentil. Je suis allé le voir, et il m'a dit, vous savez, je ne peux pas prendre ça sur moi, nous allons faire descendre le comité. Alors il a fait descendre un vieux monsieur, qui était un ancien altiste dans un quatuor perdu, je ne sais où. Et ce monsieur est arrivé, a dit, oui, d'accord, je suis le comité. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que le comité? Il m'a dit, monsieur, le comité, c'est la musique. Alors, je me suis levé, j'ai quitté Gilson, et j'ai dit, je rejoins Apollinaire, qui n'a pas voulu monter. Et d'ailleurs, 6 mois après, on m'a rendu ma musique avec des qui n'avait pas été lue parce que méchamment, j'avais collé des pages, n'est-ce pas, avec du scotch. Alors, elle n'a pas été lue. Alors, on m'a rendu cette musique et je pleurais dans la rue parce que j'estimais que c'était mauvais. Vous comprenez, je croyais que le comité de la musique était vraiment la musique, n'est-ce pas. Et alors, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu qu'on n'avait pas lu la musique. Bon, tant pis. J'étais dans une maison où je chantais des chansons qui s'appelaient La Maison Odéon. Et je devais renouveler le contrat. Et au lieu d'avoir de l'argent pour renouveler le contrat, j'ai dit, enregistre-moi cette musique. J'ai dit, et enregistre-moi cette musique sous ma direction avec l'Orchestre National de la Radio Française. Ça s'est fait en 57. Eh bien, vous me croirez, si vous voulez, la chanson du Mal-aimé, même cette année, où il y a eu le cinquantenaire de la mort d'Apollinaire, où il y a eu toute une journée consacrée à Apollinaire, on n'a jamais, depuis 10 ans, on n'a jamais passé la chanson du Mal-aimé de Guillaume Apollinaire mise en musique par moi. Alors ça doit être très mauvais.
Léo Ferré, ces années à attendre, vous ont-elles aigri?
Pas du tout, moi je suis l'être le moins aigri du monde.
Que reprochez-vous à cette société qui, d'une certaine manière, quand même, vous fait approcher les millions?
Les millions, quels millions? Moi je n'ai pas de millions, j'ai reçu ma note d'impôt ce matin.
De toute manière, il y a une vente de disques assez exceptionnelle de Léo Ferré, c'est tout à fait normal.
Non, c'est pas beaucoup, je ne vends pas tellement de disques, c'est pas moi qui vends des disques, vous savez bien qu'ils vendent des disques. Moi je ne suis pas vendu comme on ne vend pas sur un titre, comme on dit, vous comprenez? Moi, qu'est-ce que vous voulez y faire?
On ne vend pas un titre, mais on vend Léo Ferré. Léo Ferré est une très bonne marchandise, entre guillemets.
Moi, j'approche pas les millions, moi j'approche la liberté. Je suis un type libre, dans un pays où on ne l'est pas, où on fait semblant de l'être. Vous comprenez? Bon, c'est tout. Je suis très heureux, parce que j'ai une grande chance, c'est de pouvoir être indépendant. Vous dites que j'approche les millions. Ben, si j'approche, tant mieux, vous comprenez? Hein? Et les gens qui peuvent approcher les millions, on les approche.
Il y en a même autant pour vous savez, Léo.
Et puis il y en a même qui lance la même pour les prendre, même aux autres, vous comprenez? Tandis que, comme je disais Brassens, nous on exploite personne. Voilà. Et même si demain je devais devenir très riche, d'abord j'habillerai des gens comme ça qui sont mal habillés dans la rue, des jolies filles, par exemple, j'en vois souvent, qui sont mal habillées, j'ai envie de rencontrer une jolie fille dans la rue, de lui dire, écoute mon petit, viens, je t'amène, et puis dans un endroit formidable avec des trucs très chers, avec des bottes, vous savez, ils font des trucs en cuir extraordinaires aujourd'hui, hein, avec de jolies couleurs, avec les bottes qui vont avec, etc. J'ai envie de faire des choses comme ça, mais évidemment j'ai pas les moyens de le faire.
Vous avez le goût du luxe?
J'ai pas le goût du luxe, j'ai le goût, comment dirais-je, du
confort.
Même pas, vous savez, moi je dors aussi bien par terre que dans un lit de plumes, vous savez. Mais j'ai le goût de l'amour, quoi. Moi je voudrais que tous les gens s'aiment, voilà.
Vous avez eu une Cadillac, une Bentley?
Non, j'ai ni Cadillac, ni Bentley. Là, c'est pas possible. J'ai actuellement une DS qui est presque à la casse parce qu'il y a un camion de 35 tonnes le jour qui a failli m'écraser. Voilà. C'est une DS break.
Ça vous gêne que l'on parle de tout cela?
Ça me gêne pas du tout, mais j'aime bien qu'on dise la vérité.
Vous avez été imprimeur aussi?
Je suis imprimeur parce que j'aime beaucoup ça.
Parce que vous considérez comme un artisan dans ce métier-là? Dans tous les métiers en général?
Ah non, parce que moi je suis pas manuel. Et voilà, ça c'est un problème pour moi.
Pourquoi?
Je suis pas du tout manuel, je sais rien faire avec mes mains. Et ça, je peux faire quelque chose avec mes mains, c'est tout. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui savent faire quelque chose. Pour les gens, vous savez, on les appelle d'abord des bricoleurs et puis on finit par les appeler des ouvriers. Eh bien, moi je ne suis ni bricoleur ni ouvrier et je suis un artiste qui essaie de faire quelque chose malhabilement, mais enfin, je suis content quand je le fais.
Léo Ferré, vous êtes un tendre. Ça,
trop.
Je le sais. Trop tendre.
Ah oui.
Mais c'est terrible lorsqu'un tendre se révolte.
Ah, vous croyez que c'est terrible? Je fais peur à personne, oui. Puis je fais faute à personne non plus.
Vous avez souvent dit, Léo Ferré, parlant de débuts que vous jugiez difficiles, et pardonnez-moi de parler de cela, sans l'amour de Madeleine, j'aurais abandonné.
C'est sûr, oui.
Il n'y a plus Madeleine et vous continuez. Vous me pardonnez de vous parler de ça, là? Est-ce qu'on peut en parler entre nous, entre hommes?
Non, je vous pardonne pas parce que...
Non, si ça vous gêne, écoutez, nous allons écouter de la musique, je crois que c'est la plus jolie des choses. Léo Ferré, dans votre enfance, vous avez été assez seul, déjà tout petit. Est-ce que ça vous a marqué? Ça vous a donné de la force pour la suite?
Sûrement. Vous savez, il y a une certaine complaisance pour les gens tendres, comme vous disiez tout à l'heure. Entre guillemets, on a une certaine complaisance dans le malheur. Et ça, c'est un signe de la solitude extrême. Des gens aujourd'hui mal informés parlent de masochisme. Ce que, vous savez, on voit des machins sexuels partout. C'est même une époque bizarre. Non, je me complaisais. Par exemple, quand on me grondait, que j'avais fait des conneries, et on me grondait, alors j'en voulais au monde entier. Je désirais la mort instantanée de des gens qui me grondaient. Vous voyez de qui je veux bien parler. Et puis, j'étais heureux dans cette espèce de solitude malheureuse. Voilà, ça s'explique difficilement. Et je crois que c'est ça, parce que je suis un artiste. J'étais un artiste et je ne le savais pas. Moi, quand j'étais petit, je chante. Il y a des mélodies qui chantaient en moi, comme ça. Et je croyais que tout le monde était comme moi. Et le jour où je me suis aperçu que tous les gens n'étaient pas comme moi, c'est ce jour-là où j'ai été seul.
Léo Ferré, vous avez commencé vos études dans un collège religieux. Ça me paraît toujours bizarre.
Ah oui, mais alors ça, j'aurais trop à vous raconter, vous savez. Ça, je suis pas d'accord. J'ai passé 8 ans dans un collège religieux. Pendant 8 ans, j'ai été à la messe tous les matins. Pendant 8 ans, j'ai servi la messe presque tous les matins. Et j'ai eu affaire à des gens qui... En voilà des complexés, tiens. C'est normal, bon. Il est tout de même curieux que, comme je dis, il y a une chose que je ne comprends pas, que les femmes religieuses sont en robe. Hein? Et pourquoi les hommes religieux, pourquoi on leur met des robes aussi? C'est très curieux, ça. Et ça m'avait toujours inquiété. Et alors, je regardais ces gens-là et je les supputais, enfin. Ce sont des gens qui généralement n'étaient pas très, très soignés parce que on sentait que dans ce monde-là, il manque de femmes dans le monde religieux. Vous comprenez? Ça m'a gêné d'ailleurs. Ça sentait pas Chanel non plus, vous comprenez? Et puis, ça sentait un peu le fouet derrière les yeux avec des bizarres envies, vous savez. Quand on est dans un collège religieux, quand on est jeune garçon comme ça, on risque à un certain moment de dévier dangereusement. Et il y a beaucoup de malfaiteurs dans ces maisons-là.
Je vous écoute, Léo Ferré, et je fais des points de comparaison, car j'ai fait toutes mes études, au moins le début de mes études, chez les religieux. Je n'en garde pas du tout un mauvais souvenir, moi. Est-ce que ça n'est pas parce que vous étiez peut-être... dans un mauvais angle?
Non. Ça m'a toujours... Voyez-vous ce que vous, quand je rencontre quelqu'un comme vous, vous avez vraiment été dans un collège oui. religieux. Vous avez été malheureux.
8 ans, j'étais avec les jésuites.
Ah oui, c'est très curieux.
Les prêtres, les jésuites, les
ascensionnistes. Mais ça m'étonne ce que vous me dites. Peut-être une antidote à ce que je dis, non? Peut-être,
non, pas du tout.
Pour non, arranger
non,
les
ah,
choses.
Non, mais vraiment pas du tout.
Ça m'étonne, ça. Ça m'étonne. Ça m'étonne que vous n'ayez pas été malheureux dans un collège religieux.
Remarquez, j'étais dans un merveilleux pays qui s'appelle les Pyrénées, et c'est peut-être le sens oui. de la liberté qui
et puis, peut-être étiez-vous bien tombé, peut-être, et peut-être étiez-vous en dehors de l'humaine piste, déjà.
Mais vous croyez quand même à beaucoup de choses.
Moi, je crois à l'amour, exclusivement, c'est tout.
L'amour dans la liberté.
L'amour, comme ça, l'amour, avec le « la » énorme, n'est-ce pas ? Le grand A, je crois à l'amour. Je crois que l'amour, ça arrangerait tout. Dans ce monde où on tue des gens depuis 20 ans, partout on tue du monde, n'est-ce pas ? Il y a 10 mecs qui dirigent le monde et ils tuent les autres. C'est marrant. Et on m'a dit l'autre jour, c'est parce que s'ils tuent pas les autres, on les tue. Et j'aimerais mieux qu'on les tue à eux, n'est-ce pas ? Pour parler bien français. Et qu'on les ça, n'est-ce pas ? vivre des milliers et des milliers de gens. Ouais. On parle sans rire du Biafra. Ouais. C'est extraordinaire. C'est formidable. Et on dit, on nous a laissé passer, on a laissé passer l'avion pour apporter du pain à ces gens-là. Et on dit pas les gens qui nous ont laissé passer, qui sont les censeurs de la bouffe, n'est-ce pas ? On dit pas ce sont de sales individus. Pourquoi ? Parce que ça ne se fait pas.
Est-ce que vous avez l'impression, Léo Ferré...
Ça, c'est pas l'amour, hein.
De ne pas être compris.
Oh, hélas. Quand je ne suis pas compris, ce sont des gens qui ne sont pas... qui veulent pas, qui sont heureux, qui sont dans leur truc, vous comprenez. Mais il y a des gens qui me comprennent. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que vous croyez. Mais alors, quand j'en rencontre, et qui sont des gens qui, pour la plupart, ne parlent pas, qui viennent me voir comme ça, gentiment, et ça me touche terriblement, jusqu'aux larmes, toujours.
Vous savez, Léo Ferré, vous avez un public qui vous aime beaucoup, qui aime beaucoup vos chansons. Je crois que tout le monde aime vos chansons. Mais peut-être, parfois, lorsque vous expliquez les choses, vous avez peut-être trop tendance à déborder et à être violent. Vous ne le pensez pas ?
Mais quand on se révolte, monsieur, on déborde forcément, on est forcément violent. C'est comme je disais l'autre jour à quelqu'un qui me parlait de la révolution, je lui disais, la révolution, ça se fait pas en pantis, c'était une dame, ça se fait pas en pantis, madame. La révolution, ça se fait avec des bombes, avec des armes. Sinon, c'est pas la révolution. La révolution, ça se fait pas avec un programme dans la poche, ça se fait d'abord avec beaucoup d'amour, et hélas, avec de la casse. Allez, c'est tout.
Je suis persuadé, Léo Ferré, que jamais vous n'emploierez la bombe, vous.
Évidemment pas, vous pensez.
Léo Ferré, une chanson de vous est très tendre pour moi. Vous allez encore me pardonner. Je la trouve très émouvante. Et je lis un extrait et je le lis comme un poème. Ça concerne Pépé. La connaissez, cette chanson. T'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Je trouve, voyez-vous, dans une chose aussi tendre, moi j'adore les animaux, je suis comme vous, c'est extraordinaire ce qu'il y a de poésie dans une chose qui peut prêter à sourire pour des gens qui ne sont pas sensibles.
Ah non, vous savez que les gens qui sourient, parce que c'est pas du tout, moi j'ai beaucoup de sympathie pour Gainsbourg, hein. Et je trouve d'ailleurs que c'est un personnage curieux, je suis pas le seul. Et bien, et intelligent. Et je pense que c'est parce qu'il est intelligent que j'ai pu me permettre de dire ça, parce qu'il a dû comprendre. C'est pas du tout contre. C'est avec beaucoup de tendresse que je dis ça. Vous savez pourquoi? Parce que les chimpanzés ont les oreilles comme ça, qu'on peut dire, ils ont les oreilles un peu dégagées comme celles de notre ami Serge Gainsbourg. Mais ce qui était extraordinaire, un jour, je m'en suis aperçu, la nuit, quand elle dormait, elle les mettait à plat. Comme nous. Ça veut dire que dès qu'elle se levait le matin, elle ouvrait son... Elle mettait ses amplis, vous comprenez. Elle mettait ses trucs pour écouter. Puis c'était très émouvant. Je veux dire, oh, c'est extraordinaire parce que les gens imaginent les chimpanzés, on les oreilles comme ça. Non, ils les oreilles comme ça parce que ça sert, parce que c'est la nature. Et la nuit, hop, ils n'en ont pas besoin, ils les replient. Vous comprenez.
Il y a chez vous plus de tendresse pour les animaux que pour les hommes.
Oui, parce que les animaux sont innocents.
Léo Ferré, j'ai retenu cette phrase que vous auriez prononcée. J'ai entendu Mireille Mathieu, cette petite qu'on fait pousser sur la tombe de Piaf.
Eh oui.
C'était de vous.
C'est de moi. Et si vous voulez, je peux commenter. Il y a un monsieur que c'est un marchand, un impresario, qui s'appelle Monsieur Stark, qui est un monsieur dont le métier est de trouver des gens et de les faire travailler. Habituellement, ça porte un nom, précis. Et un jour, je voulais faire une chanson pour Piaf, que j'ai connue, avec qui j'ai toujours eu des relations de travail, et qui était une fille qui n'était pas toujours sympathique, n'est-ce pas ? Mais elle avait tellement un immense talent, je parle de 42-43. Et je me suis dit, cette fille qui a eu tellement de gens, tellement d'amants, qui avait du talent, il n'y a aucun qui ait pu faire une chanson sur elle depuis qu'elle est morte. Et alors j'ai dit, je vais faire une chanson, et je lui ai dit, je vais appeler à une chanteuse morte. J'étais avec Pépé dans la pièce où je travaillais à la maison, et j'ai commencé à écrire la chanson, et je finis en disant, on t'a pas remplacé, je vous jure que c'est vrai ce que je vous raconte, on t'a pas remplacé dans ce style un peu facile, bien qu'on ait mis le paquet, sous les projets au miracle, et sous la lampe à arc, et voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à Stark, parce que ça faisait une jolie rime, et parce que c'était juste, c'est parce que c'était vrai, parce que ce monsieur a dit partout qu'il avait fabriqué des piafs, il avait fait une rencontre à Biarritz entre cette pauvre petite et le fils de Marcel Cerdan, uniquement pour recréer une sorte de connivence, enfin très 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 ambiguë et banalement et vulgairement ambiguë, n'est-ce pas ? Et alors j'ai fait cette chanson que j'ai enregistrée chez Barclay. On a fait un disque. Il y avait 13 chansons dans cette chanson-là. On a tiré ce disque à 5500 exemplaires. Ça doit valoir de l'argent de presser un disque à 5500 exemplaires. Quand il a été pressé, Monsieur Stark, ça a dû s'émouvoir de ce que je disais ça dans la chanson. Il a dit, si tu empêches pas faire, si tu sors ce disque, je t'enlève la petite. Enfin, voilà.
Vous n'êtes alors pas pour les promotions publicitaires.
Je ne suis pas pour les maquignons, n'est-ce pas quand même, hein? Mais d'abord, je suis contre tous les maquignons, mais alors, quand il s'agit des êtres humains, c'est un peu gros, vous comprenez.
Et si, par exemple, Stark, demain, ou un autre, dit, Léo Ferré, je vous prends en main, vous allez voir, tout va devenir très facile, vous n'aurez plus d'ennuis, vous n'aurez pas de contact
mais il est
à
venu,
prendre.
Il est venu dans ma loge en 61 à l'Alhambra, et puis il est sorti. Vous comprenez. Je choisis mes amis et les gens avec qui je travaille. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis et pas beaucoup de gens avec qui je travaille.
Je ne veux pas me faire l'avocat de la défense, mais vous admettrez avec moi que Mireille Mathieu a quand même un public populaire en France.
Oui, mais le public, ça se fabrique, vous comprenez ? Moi, je ne crois pas à ça. Vous savez, je ne crois pas à ces objets manufacturés. Je m'excuse, je suis franc, n'est-ce pas ? On ne fabrique pas des gens qui chantent comme ça. Cette petite a une voix, a une grande voix. Pour moi, c'est tout, n'est-ce pas ? Voilà.
Léo Ferré, il n'y a pas si longtemps, les jeunes de la chanson faisaient en 3 mois ce que vous avez fait, vous, en 20 ans. Vous trouvez cela injuste ?
Non, parce que ils ont duré 3 mois. Et moi, je suis encore là.
Mais cette période est quand même dépassée.
On
ne
peut pas apprendre ce métier, vous savez. On ne peut pas être seul en scène, à chanter des chansons, tout seul, sous des projecteurs, avec un petit costume, sans décor, sans partenaire, sans rien du tout qu'un pauvre petit piano, avec des textes, recommencer toutes les 3 minutes la même chose. Et comme on dit aujourd'hui, tout remettre en question. C'est une facilité de langage, mais tout le monde comprend. Tout remettre en question toutes les 3 minutes. Pour faire ça, il faut 20 ans, monsieur. Parce que c'est très difficile d'être tout seul, comme ça, debout. Et surtout quand on est un homme, quand on est un peu vieillissant, comme vous disiez tout à l'heure.
Non, 52 ans.
Oui, mais enfin, quand même.
Léo Ferré, vous avez également dit, on va tous crever du cancer du son.
Du son ?
Du son. Vous parliez sans doute des amplis, des sonos, comme on les appelle aujourd'hui.
Je sais pas, moi je crois qu'on ne crèvera pas, ce serait trop facile. Et j'en crèverai jamais. Non, ils ont la vie dure.
Vous avez un avis sur la chanson engagée, la chanson à message. Je crois que vous n'aimez pas d'ailleurs ces deux termes.
D'abord, j'aime pas ces deux termes, et puis vous en connaissez beaucoup.
C'est-à-dire, on pourrait dire que Léo Ferré est un chanteur à message. Ou un chanteur mais, engagé.
Vous savez, soit. Écoutez, alors ça, quand un homme politique dit quelque chose, c'est une option. Bon, quand un journaliste fait quelque chose, on dit c'est un éditorial. Et quand Ferré fait un truc, il dit c'est un message. Et pourquoi? Vous comprenez que moi, je fais des chansons, je parle pas de je sais pas moi, il faut que je parle des choses qui me tiennent à cœur. Et alors c'est des messages. Eh bien, tant pis, je fais des messages. Ce message, c'est une. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Comprenez?
On bavarde.
Des messages. On parle à des gens.
Est-ce qu'il y a une chose que vous auriez eu envie de faire et que vous n'avez pas faite?
Non, pas du tout, non. Alors ça, je ne me pose jamais cette question. Parce que si j'avais eu envie de faire quelque chose, je l'aurais fait.
Vis-à-vis de vous, vous avez rempli votre mission?
Ça, je m'en fous. Vis-à-vis de moi, moi, je ne me regarde jamais. Je ne suis pas narcissique pour deux sous. Je n'ai pas de mission à remplir. Vous savez pas, aujourd'hui, on dit... Aujourd'hui, j'écoutais un chanteur, justement, qui disait « Je me cherchais, je me suis trouvé. » Ah, c'est formidable.
Ouais. Quels sont vos agacements aujourd'hui?
Mais ce genre de choses, quoi. Je me cherchais, je me cherche, je me trouve.
Léo Ferré, il y a beaucoup de choses dont nous pourrions parler ensemble, mais je sais bien qu'il y a des secteurs de la vie privée qu'il ne faut pas dépasser, et nous allons respecter notre contrat. Ce soir, c'est un grand soir pour Léo Ferré. Vous débutez à Bobino.
Oui.
Dans quel esprit êtes-vous?
Bon, j'ai peur parce que j'ai beaucoup de chansons nouvelles et que je ne les sais pas très bien, en fond, c'est ça.
C'est un récital complet, deux heures. Oui. Combien de chansons?
30. 31.
Combien de nouvelles?
17.
Vous avez un souhait à formuler?
Un peu que les gens m'aiment bien, toujours.
En tout cas, nous, on aime bien vous écouter.
Merci.
Radioscopie.